le Japon cherche à s'appuyer sur des partenaires qui ont les mêmes valeurs que lui face à la Chine, dans une tentative de contrebalancer, disons, la montée en puissance chinoise et donc de faire valoir aussi la spécificité japonaise par rapport à la Chine, qui est d'être évidemment une démocratie. Le Japon et l'Inde se sont entendus pour donner une orientation plus stratégique à leur relation. Et il y a eu, par exemple, en mai dernier, des exercices maritimes qui ont impliqué l'Inde, le Japon, les États-Unis, l'Australie et Singapour au large du Japon et qui étaient les premiers du genre.
Vous parliez de la menace que représente pour le Japon la puissance montante de la Chine. Quelle est la réalité en ce moment des relations entre la Chine et le Japon?
Du point de vue du Japon, c'est comme pour les États-Unis, une absence de transparence de la Chine sur ses dépenses militaires et une très forte augmentation de ses dépenses, assortie évidemment d'une grande modernisation. On est parti de très loin parce que la Chine avait une armée très obsolète, mais cette modernisation et les investissements qui sont faits sont tout de même spectaculaires. Bien évidemment, les États-Unis ont toujours prédomine, bien sûr, mais ça finit par être un peu inquiétant et le Japon, certainement, y attache une grande importance. Puisque vous savez certainement que le Japon a, dans le domaine de la défense, une politique qui est très restrictive. Même s'il s'efforce d'avoir une armée très moderne, il limite également ses investissements à 1% du PIB. Et donc c'est une contrainte qui s'est imposée et qu'il maintient à peu près. Ça lui fait néanmoins un budget de la défense qui est équivalent à celui de la France ou de la Grande-Bretagne. Et donc finalement à peu près sans doute la même chose que la Chine. Mais on a beaucoup de mal à évaluer l'importance du budget militaire chinois à cause donc de cette absence de transparence. Et du fait aussi que, de toute manière, les comparaisons avec la Chine sont difficiles, puisque l'économie n'est pas une économie de marché, etc.
Est-ce que la montée de la puissance chinoise est une réelle menace pour le Japon?
En fait, effectivement, davantage qu'une attaque, une attaque directe, ce que peut redouter le Japon, c'est d'être en fait mêlé à un conflit qui implique Taïwan et qui donc impliquerait également les États-Unis et où il se trouverait, lui, obligé d'aider son allié, les États-Unis, dans le cadre des accords de sécurité qu'il a avec les États-Unis. Et en dehors de ça, ce qui est inquiétant surtout avec la politique chinoise, c'est encore une fois l'absence de transparence.
Dernière question, comment est-ce que le Japon conçoit dans les faits la réalité de l'arc de liberté et de prospérité au-delà de son lien avec l'Inde?
C'est un concept pour le moment qui est diplomatique, hein, donc dans quelle mesure est-ce qu'il a du contenu, si vous voulez, il faut le nourrir encore. Mais donc effectivement, l'idée, c'est d'établir un lien qui associerait l'Australie et l'Inde dans un partenariat, donc impliquant le Japon. Et donc il s'agit de donner une dynamique positive dans la région qui contrebalance l'arc d'instabilité qui va du Moyen-Orient et qui inclut pour le Japon la Corée du Nord. Donc il s'agit avant tout de favoriser une action conjointe des démocraties, un rapprochement des démocraties. Et c'est un mouvement qui avait été initié par le Japon déjà au moment où du premier sommet de la communauté est-asiatique, où le Japon a fait en sorte que l'Inde et l'Australie en fassent partie, ce qui n'était pas envisagé au point de départ.